Voici une traduction en français de la conférence numéro 5504C02 PLPS 11 intitulée La deuxième dynamique. Il s'agit d'une conférence publique donnée par Elron Hubbard le 2 avril 1955. Copyright 1955-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très très important, et je suis très heureux de me trouver en face d'un public aussi sympathique. Et j'ai une inspiration. Il existe un sujet auquel nous n'avons pas encore consacré une conférence entière. En génétique et en scientologie, nous appelons ce sujet la deuxième dynamique, qui est l'impulsion à exister par le sexe. Cette dynamique se subdivise en deux parties, l'acte sexuel lui-même et la famille, y compris l'éducation des enfants. Du fait que ce sujet a quelque chose à voir avec votre présence ici, du fait qu'il a dans le passé influencé dans une certaine mesure le comportement de la race humaine, et du fait que la psychothérapie, quand elle a vraiment commencé, s'est concentrée sur la deuxième dynamique, je pense, personnellement, quoi que vous pensiez, que la deuxième dynamique est un sujet qui mérite qu'on l'examine et que nous en parlions. Maintenant, normalement, quand les gens pensent à la deuxième dynamique, ils pensent à tout un tas de gros mots. Mais personnellement, je ne connais pas de gros mots. À l'université, j'ai fait partie d'un régiment de Marines, où j'étais sergent-chef. J'ai fait partie du 20e régiment des Marines, compagnie de réserve, qui par la suite s'est distinguée durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à l'époque, c'était une compagnie de réserve, et c'était la mode sur le campus, pour quiconque avait un nom, de faire partie de cette compagnie. Ce qui ne veut pas dire que cette compagnie de Marines était moins bonne que les autres. Et avant de devenir membre de cette compagnie, je croyais savoir quelque chose sur la deuxième dynamique. Bon. Ce n'est pas le genre d'éducation que j'essaye de vous recommander ce soir. Nous pouvons aborder la question plus tard. Donc entrons, à présent, dans le vif du sujet. Si on l'appelle la deuxième dynamique, c'est pour une bonne raison. Elle fait partie des dynamiques de la dianétique et de la scientologie. Il y a 8 dynamiques en scientologie. Une dynamique, c'est n'importe laquelle des 8 subdivisions du principe dynamique de l'existence, et ce principe dynamique de l'existence, c'est survivre. Les 4 premières dynamiques appartiennent en fait, et à juste titre, à la dianétique. Et elles sont décrites dans le livre « La dianétique, la science moderne de la santé mentale » publié en 1950. Ce sont ces 4 dynamiques qui occupent le plus l'attention de l'homme. Mais il n'en reste pas moins que les 4 autres existent et qu'il ne faut pas les ignorer. Voici les 4 premières dynamiques. Premièrement, la dynamique du soi, ce que nous appelons la première dynamique, se rapporte à l'individu en tant que lui-même, en tant qu'individu. Et elle comprend ce que Freud appelait l'alter ego, mais personne d'autre. La première dynamique, donc c'est un individu, plus ses habits, plus ce qu'il lit, plus sa chambre, plus sa voiture, etc., etc. Bien sûr, ici je parle de la société américaine. Je veux dire, nous ne pourrions pas omettre la voiture. La voiture fait une sacrée différence. J'ai connu un gars une fois. Il était très très svelte, très élégant, beau gosse, très calme, et il conduisait une Cadillac, à l'époque. Et puis il a fait faillite, et il a conduit une Ford, et après ça, c'était quelqu'un qui était tout le temps agité. Bien sûr, il n'a jamais attribué cela à sa voiture, mais sa voiture était ce qui le déplaçait tout le temps d'un endroit à l'autre, et elle faisait vraiment partie de sa première dynamique. Donc, nous prenons un individu et ses possessions immédiates. Les choses, comme il dit, qui sont à moi, pas touchent mon pote. Oui. Il y a des gens qui incluent leur épouse ou leur mari dans la première dynamique, et non pas dans la deuxième dynamique. Quand vous voyez un individu inclure sa femme, ou une femme inclure son mari dans sa première dynamique, il n'y a pas de deuxième dynamique. Voilà un fait intéressant à se rappeler quand on audite des préclairs et qu'on cherche à analyser la race humaine. Voilà donc pour la première dynamique. C'est simplement l'individu. Elle se compose de tout un tas de choses. Nous avons découvert que l'individu, le « je » dans la société, n'est pas du tout « un ». Oui, il n'est pas du tout « un ». Ce n'est qu'avec l'apparition de la scientologie que nous avons découvert ce que nous auditions vraiment lorsque nous auditions la première dynamique. Nous avons dégagé les mauvaises herbes et les vieux godillots et tout un tas d'autres choses. Soit dit en passant, certaines personnes incluent aussi leurs enfants dans la première dynamique. Donc, une fois que nous eûmes dégagé tout ça, que nous eûmes séparé tout cela de l'individu, eh bien, et seul un scientologue saisirait cette plaisanterie, eh bien, il ne nous est plus rien resté. Nous sommes donc immédiatement passés à la deuxième dynamique. Pour nous, la première dynamique, c'était simplement l'individu et les choses qui lui appartiennent directement. Et la deuxième dynamique comprenait deux subdivisions. La première, c'était l'acte sexuel lui-même, c'est-à-dire les sensations, le plaisir, la douleur et les autres choses que les gens en retirent. Et la deuxième subdivision, c'est le fait de s'occuper des enfants, l'éducation des enfants. Donc, cette deuxième dynamique a deux parties. L'acte sexuel et les enfants. Et les enfants ne sont pas inséparables du sexe. Soit dit en passant, peut-être en parlerons-nous plus tard, ou peut-être oublierai-je d'en parler, soit dit en passant, l'enfant d'un couple frigide, dont la deuxième dynamique est très médiocre, qui déteste le sexe, oui, j'ai trouvé toutes mes idées sur le sexe dans les livres qu'ils ont publiés quand j'étais une jeune fille, et des livres du genre « Tout ce qu'une jeune fille devrait savoir ». Eh bien, ce pauvre gosse va en voir de toutes les couleurs. En d'autres termes, ceux qui détestent le sexe détestent les enfants. Maintenant, le sexe peut devenir une obsession. Et l'amour des enfants aussi. J'ai remarqué parfois ce phénomène dans la nation allemande, que l'amour des enfants n'était pas vraiment très rationnel ou sincère, c'était simplement une compulsion ou une obsession. À un moment, ils vont dire « Ah, les enfants, c'est merveilleux !» Et le moment d'après, ils vont dire « Le petit monstre, je vais le tuer !» Et comme ça, sans transition. C'était là la philosophie hitlérienne concernant les enfants. La jeunesse, nous devons perpétuer la jeunesse, et puis d'un seul coup, sans transition, détruisez-moi tous ces jeunes. Vous pouvez donc voir que la façon dont Hitler traitait les enfants était légèrement aberrée. Mais du point de vue sexuel, eh bien Hitler c'était pas ça. En fait, des histoires ont circulé à ce propos. Bon, c'était peut-être de la propagande alliée. Mais ayant personnellement connu plusieurs bonhommes du même acabit, je peux vous dire qu'ils deviennent vraiment aberrés. Et Hitler a détruit toute une génération de jeunes Allemands, et comme ça, ouf, les enfants qui pourtant étaient si merveilleux, voyez. Voilà à quel point il était aberré du point de vue sexuel. Donc il y a un lien entre ces deux choses dans la deuxième dynamique. Et lorsque l'une de ces deux choses cloche, vous verrez que l'autre cloche aussi. Très bien. La troisième dynamique était la dynamique des groupes. Et c'était l'effort de l'homme pour survivre en tant que groupe. Il pouvait s'agir de l'Académie française, ou d'une compagnie dans une armée, ou de l'armée, ou de la nation. Peu importait la dimension du groupe, il s'agissait simplement d'un assemblage de personnes, et l'homme, en se joignant à un groupe d'individus, cherchait à survivre. Passons à la quatrième dynamique, nous découvrons qu'il s'agit de l'impulsion de l'homme à survivre. Chacune de ces dynamiques est simplement une impulsion à survivre en tant que. Et la quatrième dynamique était l'impulsion de l'homme à survivre en tant qu'humanité. Tous les hommes, parce que ce sont des hommes, cherchent à survivre en tant qu'hommes et pour les hommes. Et à mesure que les gens deviennent de plus en plus aberrés et de moins en moins responsables, vous les voyez s'éloigner de la quatrième dynamique, pour finalement se retrouver dans un état, dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui. Si on vous demandait soudain ce que vous faites pour préserver l'homme sur Terre, vous allez probablement chercher pas mal de temps pour trouver quelque chose de très actif. Bien sûr, cela ne s'applique pas à la Dianétique et à la Scientologie. Nous sommes très actifs. Mais monsieur tout le monde, vous arrivez dans une station essence, et le pompiste se pointe, et rappelez-vous que cet individu est un homme, il a quatre dynamiques, une, deux, trois, quatre, et cette quatrième dynamique existe toujours, c'est son impulsion à survivre en tant qu'homme, et nous lui demandons, « Très bien, fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour assurer la survie de l'humanité ici sur Terre ?» Il va dire, « Hein ?» Vous pourriez lui dire, « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour assurer la survie de la Standard Oil ?» Il dira, « Oh, pas grand-chose, mais ça a été une bonne journée. Hein. J'ai truandé de clients, ça m'a rapporté 20 balles, et puis... j'étais ici, j'étais présent au boulot. » Voyez, il a en effet fait quelque chose pour une troisième dynamique. Et vous dites, bien, maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour la deuxième dynamique dernièrement? Et il vous dira, en vous montrant son œil au beurre noir, vous êtes aveugle ou quoi? Et vous dites, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même, aujourd'hui? Ah, voilà un vaste sujet. Qu'est-ce que tu as fait ou ressenti aujourd'hui. Ce serait le plus vaste de tous les sujets. Nous sommes partis de la quatrième dynamique, en passant par la troisième dynamique où le gars était tout juste conscient, puis par la deuxième dynamique où il était extrêmement conscient, pour arriver à la première où il était on ne peut plus conscient. Voyez-vous, à mesure que l'individu perd de sa vitalité, il devient progressivement de plus en plus conscient dans les dynamiques inférieures. Jusqu'à ce que, finalement, l'individu ne soit plus conscient que d'une seule chose, la première dynamique. Il dit, « La chose dont je suis le plus conscient, c'est moi. C'est ça la chose dont je suis le plus conscient. » Et il n'est absolument pas conscient de notre existence à nous. Et c'est intéressant de voir un tel individu essayer de retirer du plaisir de l'acte sexuel. Vous pourriez difficilement appeler cela une sensation intéressante. Maintenant, l'acte sexuel est quelque chose qui se fait à deux, et un individu retire en fait du plaisir de l'acte sexuel dans la mesure où son partenaire en retire aussi. Sinon, c'est qu'une expérience de première dynamique. Et finalement, il arrive à la quarantaine, et il prend des choses qui lui sont prescrites par les médecins. Les médecins n'arrêtent pas d'inventer de nouvelles maladies, et ils ont inventé quelque chose appelé l'andropause. Nous connaissions la ménopause, mais les médecins ont récemment inventé quelque chose appelé l'andropause, afin d'augmenter les ventes de médicaments de Park, Lilly, Abbott et autres sociétés pharmaceutiques dont nous ne parlerons pas. Donc l'homme arrive à l'andropause et il dit « Le sexe ne vaut rien, je ne suis plus bon à rien du point de vue sexuel, peut-être que si j'allais demander aux médecins, et il va voir le docteur pour lui demander des conseils, et le docteur lui dit « Eh bien, entre nous, monsieur Dubois, je vais vous dire de quoi vous avez besoin. C'est d'un petit médicament, et ce petit médicament est très bon marché, très bon marché. Il ne coûte que 20 dollars le flacon, il vous faudra un flacon par semaine, bien sûr. Et le nombre d'actions que j'ai chez Park Davis n'a absolument aucun rapport avec mon ordonnance. » Et donc le gars prend ce médicament pendant des semaines, des mois, des années, et puis la suggestion hypnotique du docteur commence à perdre de son effet. Le docteur sait très bien que très souvent, il suffit de donner une suggestion à quelqu'un pour que celui-ci y obéisse. Voyez-vous, le docteur le sait très bien. Il sait que dans de nombreux cas, c'est ça qui guérit le patient. la suggestion mentale. Pourquoi le docteur dit-il que la suggestion mentale ne cause la guérison que dans une minorité de cas? Est-ce que cela veut dire que dans les autres cas, ce sont les médicaments qui effectuent la guérison? C'est ce qu'on nous amène à croire, voyez-vous. Certaines personnes ne sont pas aussi sensibles aux suggestions que d'autres, et elles ne guérissent pas. Voyez comment ça fonctionne. Ça nous permettrait immédiatement de déterminer avec qui le médicament marche ou ne marche pas. Certaines personnes ne sont pas aussi sensibles aux suggestions que d'autres. Donc, est-ce que l'U-235 ou ce médicament qu'ils injectent aux gens maintenant guérit les ennuis de deuxième dynamique? Est-ce qu'il est efficace? Eh bien, il est efficace dans la mesure où la personne est sensible aux suggestions. Bien, qu'est-il arrivé à cette personne? Elle est tombée dans la première dynamique. Elle n'est plus dans la deuxième dynamique. L'humanité, et ainsi de suite, connaît plus. Tout intérêt véritable ou sincère qu'elle éprouvait pour ces dynamiques a progressivement disparu et n'existe plus que dans la première dynamique. À 40 ans, notre gars a aussi fini par laisser tomber la deuxième dynamique. Est-ce que quelques injections vont lui faire remonter la pente? Non. Par contre, il pourrait remonter la pente en étendant son intérêt à la société pour que les autres dynamiques soient à nouveau actives. Mais chose bizarre, une fois que le gars est revenu à la première dynamique, il l'abandonne et il devient obsédé par la deuxième. Et une fois qu'il a été bien obsédé par la deuxième, il est susceptible de l'abandonner et de devenir obsédé par la troisième. Et puis il cesse d'être obsédé par la troisième, voyez-vous, il subit quelques échecs de plus, et le voilà maintenant très obsédé par la quatrième dynamique. Et cela nous donne quelqu'un comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez probablement oublié son nom, bien ce type qui s'appelle Hitler, et le père Adolphe en est arrivé à un point où il aimait tant la race humaine qu'il était prêt à tuer chacun de ses membres pour garantir leur bonheur futur. Et voilà en quoi a consisté la propagande allemande, si jamais vous avez eu l'occasion de mettre les yeux dessus à l'époque. C'est ça que vous trouvez dans Mein Kampf, mon combat. Tous les grands dictateurs ont suivi le chemin dont je viens de vous parler. Voici tout le chemin suivi, le vrai chemin suivi. Au début, ils ont les quatre premières dynamiques, et tout marche comme sur des roulettes. Ils sont très actifs dans chacune de ces dynamiques. Ah, les quatre dynamiques, l'homme, c'est quelqu'un de bien, l'homme. Les Chinois, les Noirs, ils sont tous très bien, peu importe leur couleur. Un homme est un homme. Donc tout va bien. Et puis ils commencent à s'éloigner de la quatrième dynamique. Ils finissent par se dire que les Hottentots ne valent rien. Et puis bien sûr, il y a un petit truc qui cloche avec les Iglutes et les coutumes des Totterdactyles, la tribu qui vit sur les rives du fleuve Merskurgnarfl. Ils ont des coutumes très barbares là-bas. Vous voyez, l'homme s'éloigne de la quatrième dynamique, on le lui apprend à l'école, on lui apprend à prendre ses distances avec la quatrième dynamique, et à tomber dans la troisième dynamique, c'est-à-dire le drapeau, tara-tara, et la troisième dynamique. Et le voilà donc sous les drapeaux, tara-tara-tara, et on le lui inculque si bien, que chaque fois que quelqu'un lui dit drapeau, il répond tara-tara. Je ne cherche pas à déprécier l'esprit de loyauté ou l'esprit de groupe, mais je dirais qu'il y a quand même un tout petit truc qui cloche dans le fait d'hypnotiser tout le monde au point qu'il croit que le nationalisme est le remède à tout. Le nationalisme a été inventé il y a environ 2 siècles. Ça a été une expérience plutôt nouvelle. Elle n'a pas marché. Il y a beaucoup d'obstacles. D'habitude, ces grands États nationaux englobent trop de peuples différents. Sauf ici, aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, nous comprenons le nationalisme. Le nationalisme marche ici. Pratiquement un seul et même peuple. Nous avons quand même une ou deux minorités. Les gens de couleur. Gens de couleur, ils ne s'en tirent pas aussi bien qu'ils le devraient. Mais nous formons tous une nation. Nous sommes une nation. Nous avons de bons moyens de transport, de bons moyens de communication. Nos programmes de télévision sont diffusés par Los Angeles et New York, et tout est américain partout, et bien américain. Aujourd'hui, vous ne pourriez même plus trouver quelqu'un avec un accent hillbilly, avec lequel parlaient les gens des collines des États du Sud. Impossible de trouver quelqu'un qui parle avec cet accent pour le faire jouer dans un film à Hollywood. On serait obligé de trouver quelqu'un capable de l'imiter, et le gars devrait d'abord regarder quelques vieux films. En d'autres termes, le nationalisme, ça marche aux États-Unis. Jetons un coup d'œil à la Chine. Jetons un coup d'œil à la Chine en tant que nation. Quand j'étais en Chine, tous les 80 kilomètres, je trouvais une langue complètement différente. Complètement différente. Vous disiez joyeusement à quelqu'un avec votre chinois très boiteux que vous veniez d'apprendre. Ça faisait plusieurs jours que vous étiez dans cette ville et vous aviez fini par trouver exactement comment demander une tasse de thé. Et vous disiez avec grandeur, d'un air hautain, « Fils, donne-moi une tasse de thé. » Et le gars répond « Anagaba le bedu kawa nyak » une toute autre langue. Vous parlez à certains de ces Chinois du Nord, ou alors parlez avec respect, ce sont des gens solidement bâtis, et puis vous descendez à Hong Kong et vous allez parler à quelqu'un de solidement bâti, et il parle une langue complètement différente. La Chine est composée de peuples complètement dissemblables. Il y a beaucoup de races en Chine. Certains Chinois ont la peau si foncée que vous jureriez qu'ils viennent d'Afrique. Et certains Chinois ont la peau si claire et les yeux si peu bridés que vous vous demanderiez d'où viennent tous ces Américains. C'est absolument extraordinaire. Et voici une nation qui n'a pas de langue unique, qui n'a pas de bons moyens de communication, qui n'a aucune des choses qui devraient composer une nation. Et quelqu'un arrive et dit « Ralliez-vous au nouveau drapeau, tara, tara, tara. » Et puis nous lisons dans la presse que la Chine est devenue communiste. La Chine se trouve maintenant dans les affres d'une révolution communiste. Nous allons dans l'une de ces villes et nous disons « Hé, les gars, ça vous plaît le communisme ?» Ils répondent « Le quoi ?»« Hé, le communisme ! Ça vous plaît le communisme ?» Je veux dire, il vous plaît notre nouveau gouvernement, vous savez, là, le nouveau gouvernement, tous ces nouveaux trucs qui ont eu lieu à Pékin, l'étoile rouge et tout ça, ça vous plaît? Hein? Ils ont un nouveau gouvernement à Pékin? Ça alors? Bon, allez, tiens, regarde, là, soit dit en passant, j'ai de nouveaux lilas. Hein? Ça te dirait de venir y jeter un coup d'œil? Parlons de quelque chose d'intéressant. La Chine a été mise en pièces. Et ça fait tant d'années qu'on l'appelle une nation que les gens ont fini par se désintéresser de la question. Ce n'est pas une nation. C'est loin d'être une nation. C'est comme la Russie. La Russie est loin d'être une nation. Ils parlent tant de langues en Russie qu'ils ne sont même pas capables d'avoir une révolution potable. Dernièrement, il y a eu plusieurs tentatives de révolution en Russie. L'Ukraine a essayé de se révolter il y a quelque temps. Et si nous ne l'avons pas lu dans la presse, c'est parce que la Russie ne s'en est pas vantée. Mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait une révolution, vu qu'il y a une sacrée différence entre les Ukrainiens et les gens de la région de Stalingrad. En Russie, les gens parlent des langues différentes, et il n'y a pas de transport en commun. Donc, en fait, quand vous jetez un coup d'œil à la plupart des nations de la Terre, vous voyez que vous n'avez pas affaire à des troisièmes dynamiques. Vous avez affaire à une très petite troisième dynamique ici, plus une troisième dynamique là-bas, une autre troisième dynamique, plus une autre troisième dynamique, plus une autre troisième dynamique. Vous voyez? Et ces petites troisièmes dynamiques sont unies par une frontière politique, et nous appelons cela une nation. Eh bien, ici aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Nous sommes un groupe. Nous sommes américains. Mais dire qu'il y a une nation chinoise serait idiot. Ce serait pareil avec la Russie. Même avec la France, quelqu'un qui parlerait un français très académique aurait du mal à se faire comprendre dans certaines régions du sud de la France. Prenez l'Angleterre. Il y a de très grandes différences de langue d'une partie à l'autre du pays. Donc la troisième dynamique, c'est ce que nous appelons un groupe. qu'il s'agisse d'une nation ou d'une partie d'une nation. Donc quand nous avons décomposé la quatrième dynamique, nous nous retrouvons avec des troisièmes dynamiques, et ensuite, quand nous sommes passés par tous les types de groupes, d'organisations qui existent, nous parvenons finalement au groupe sur lequel repose l'humanité, c'est-à-dire la famille. Et la famille vient en fait se placer à l'extrémité supérieure de la deuxième dynamique. C'est le groupe sur lequel repose l'humanité. Peu nous importe que la famille soit composée de 8 femmes et d'un mari, ou d'une femme et de 8 maris, plus tous les enfants, monogamie n'est pas synonyme de famille. Une famille est simplement un groupe dont l'objectif est le plaisir sexuel et l'éducation des enfants, ainsi que des avantages économiques mutuels. C'est un petit groupe. Donc nous avons ce petit groupe, qui est vraiment un groupe, c'est le groupe de la famille, et sans la famille, il n'y aurait pas de race humaine. Et nous avons ce groupe face à cette énorme quantité de troisième dynamique, le nationalisme, tara, 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 le régionalisme, l'étatisme, le vilisme, vous savez, unissons-nous et formons l'hémisphère ouest, les nations occidentales, les Nations Unies qui représentent toutes les nations, sauf celles qu'elles ne représentent pas. Des groupes, des groupes, des groupes. Et il y a une commotion, une mésentente énorme parmi ces groupes, parce qu'aucun n'est un groupe solide et naturel. Tous les peuples blancs de la Terre, par exemple, prenez toutes les races caucasiennes. Les races caucasiennes ne forment pas un groupe unique, ne forment pas une unité. La race caucasienne ne forme pas une unité. Vous saviez cela, ce dit en passant? Il y a des caucasiens partout dans le monde. Vous allez en Inde et vous découvrez qu'une certaine couche de la population est caucasienne, et qu'elle a probablement une peau plus blanche que nous. Nous regardons à droite et à gauche et nous disons, bon, très bien, prenons la race noire, c'est une race facile. Je suis désolé, mais les Noirs ne forment pas non plus un groupe naturel qu'on pourrait appeler nation, état, province ou frontière. Vous avez tous les Noirs, tous les gens de couleur qui vivent ici en Amérique, vous avez tous les gens de couleur qui vivent au Moyen-Orient, vous avez tous les gens de couleur qui vivent en Afrique, mais la frontière naturelle que forment ces gens ne correspond pas aux frontières nationales dans lesquelles ils vivent. Autrement dit, un groupe racial vit au sein de frontières naturelles et l'on a introduit tant de frontières artificielles qu'il est impossible pour nous d'étudier une vraie troisième dynamique. Donc, face à toutes ces frontières artificielles, nous avons cette deuxième dynamique et c'est la seule chose qui soit réelle pour la plupart des hommes sur Terre. Ils se sont éloignés de cette quatrième dynamique, ils n'arrivent même plus à penser quatrième dynamique. Ils se sont détachés de la quatrième dynamique et restent dans une certaine mesure attachés à une troisième dynamique quelconque, mais ce n'est pas vraiment réel. Le club, la loge, nous aimons aller au club, nous devenons membres d'une organisation, nous portons une épingle, tout est prévu d'avance et tout ça n'est rien, vraiment. C'est ce que vous diront la plupart des gens. Par contre, quelque chose de réel pour eux, c'est la famille. C'est la famille dans laquelle ils ont été élevés, c'est la famille qu'eux-mêmes sont en train d'élever, et ça c'est réel. Les ambitions et les buts. Chaque membre de cette famille a des ambitions et des buts réels. Les inquiétudes, les soucis, les traits de personnalité de chaque membre de cette famille, voilà des choses qui sont tout à fait réelles pour l'individu. Et cela à tel point que nous découvrons pendant l'auditing qu'il a adopté les traits de personnalité de chacun des membres. Vous voyez, c'est un groupe extrêmement lié. Si lié que le gouvernement chinois repose sur la famille. La Chine est gouvernée par les familles. Vous avez 10 familles qui forment une unité, un groupe. Et puis vous avez une centaine de ces groupes de 10 familles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez le système employé. Si bien qu'un communiste arrive, tape sur l'épaule du gars et lui dit « Dis à toutes tes familles qu'elles sont communistes maintenant. » Le gars dit « Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je leur raconte ? Comment je leur explique ce qu'est le communisme ?» Eh bien, c'est le partage des terres, c'est travailler ensemble, bien se conduire et payer tant et tant sur le revenu. Et le gars dit « Mais tu es simplement en train de me décrire le gouvernement, tu es en train de me décrire les choses telles qu'elles sont. » « c'est vrai, tu as raison. Eh bien, dis-leur tout ça. Dis-leur de rentrer dans le rang, vous êtes communiste maintenant. » Et donc il répète cela à tous ces groupes de familles, et les chefs de ces familles vont le répéter aux groupes plus petits, lesquels répètent le message aux groupes plus petits, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous parveniez à la simple famille, la petite famille qui travaille à la ferme. Et les membres de cette famille disent « D'après le chef de notre groupe de famille, nous sommes communistes. » Eh bien, c'est de l'idiotie pure et simple. Je veux dire, essayez d'avoir une discussion politique avec quelqu'un de cette famille. Vous lui demandez « Qu'est-ce que c'est un gouvernement ?» Et il répond « Oh, vous voulez parler de mon père ?» Eh bien, voilà une vieille nation qui a été piétinée de nombreuses fois, qui a connu de nombreuses fureurs politiques, et cette vieille nation a fini par ne pouvoir comprendre qu'un seul type de gouvernement, la famille. Et dans notre société, l'enfant obéit ou est fidèle à sa famille. Ou bien il ne lui obéit pas, ou il ne lui est pas fidèle, c'est l'un ou l'autre. Donc la délinquance juvénile n'est pas vraiment un problème de troisième dynamique. C'est un problème de deuxième dynamique. Est-ce que vous voyez en quoi ce serait un problème de deuxième dynamique? Si l'individu se trouve sous la coupe d'un gouvernement qu'il considère réel, et que ce gouvernement lui dit de bien se conduire, de rester fidèle à ses amis, d'étudier avec acharnement, d'être bien élevé avec les personnes âgées, vous voyez, toutes ces choses qui font une civilisation. S'il est bien éduqué dans tous ces domaines, s'il est satisfait de toutes ces règles, et si on ne l'arrache pas immédiatement ou constamment à son foyer, eh bien nous n'aurons pas un mauvais citoyen. Nous aurons un bon citoyen. Il se débrouillera bien dans la vie et il réussira. Il n'aura pas beaucoup d'aberrations. C'est sûr, le vieux a été un peu dur avec lui quelquefois, et peut-être que les choses n'ont pas toujours été roses, peut-être que de temps en temps la famille n'avait pas le sou. Cependant, mieux cet individu aura été gouverné, meilleur citoyen il sera. Mais qui le gouverne ? Papa et maman. Voilà qui le gouverne. Et s'ils l'ont mal gouverné, ce sera un mauvais citoyen. Et si papa et maman ne savent pas comment exercer un bon contrôle, eh bien, nous avons l'aberration. L'autre jour, j'ai rapidement craqué un cas. Un gars est arrivé en titubant, il a dit « Je suis restimulé ». La restimulation, c'est la réactivation d'un incident passé. Je n'avais pas vraiment le temps de m'occuper de lui, j'étais très occupé, j'avais sommeil, donc je lui ai demandé... Je vais vous résumer cette histoire très sommairement. Je lui ai demandé, dans ta famille, qui verrais-tu le moins d'inconvénient à ce qu'il exerce du 8C sur toi ? Le gars était scientologue, il a donc compris ce que je lui ai demandé. Il a compris que cette technique, ce qu'était cette technique particulière, le 8C, qui consiste à diriger quelqu'un vers tel et tel endroit et à lui faire toucher diverses choses. Qui, dans ta famille, verrais-tu le moins d'inconvénient à ce qu'il exerce du 8C sur toi ? Il a réfléchi et réfléchi. Pour lui, c'était un tout nouveau point de vue, vous savez. Et il a répondu, « Bien, c'est facile, mon père. Mon père serait la meilleure personne pour exercer du 8C sur moi. » Très bien. Dans ta famille, qui verrais-tu le plus d'inconvénient à ce qu'il te dit ? Ah, ma mère, rien que l'idée qu'elle puisse me diriger à travers les étapes du 8C, eh bien, ce serait plus que je ne pourrais tolérer. Je lui ai dit, tu es sûr de ça? Tu es sûr que ça ne te dérangerait pas que ton père t'administre la technique du 8C ? Long silence avant de répondre. Et puis il a dit que mon père m'administre du 8C. Hein. Oh non, non, non. Parce que tout serait si vague. Tu vois, il n'y aurait pas de mur. Ça n'aurait aucune importance que j'aille ou non vers un mur pour le toucher. Tout ça serait mou. Mon père dirait « À quoi bon ?» Tu vois, mon père dirait « À quoi bon ?» Au moins, ma mère, elle me donnerait une bonne bourrade si je n'allais pas vers le mur. Bon, bien sûr, elle oublierait ce qu'elle venait de me demander juste avant que je n'aille vers le mur, mais au moins, avec elle, il y aurait du mouvement. Et j'ai dit « Tu es sûr que ton père serait le pire et ta mère la meilleure pour administrer du 8C ?» Non, 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 non. En fait, ce serait ma sœur, la pire. Ma sœur aînée. Je ne pourrais pas supporter qu'elle me dise avec la technique du 8C. Je ne peux pas supporter. Et j'ai simplement continué à lui poser cette question, et il n'a pas arrêté de changer d'avis. Et puis soudain, il a dit, « Tu sais, c'est dommage que ma famille n'ait pas connu la scientologie. Nous aurions été beaucoup plus heureux. » Sa restimulation avait complètement cessé, et il se sentait extrêmement décontracté. Pourquoi ? Parce que la machine de cette personne était branchée sur chacune de ces personnes, sur chacun de ces membres de la famille. Une machine, c'est une véritable machine dans le mental, elle se compose de masse et d'énergie mentale, et l'individu l'a construite pour travailler à sa place. Et il l'a habituellement réglée de façon à ce qu'elle se mette en route automatiquement dans certaines circonstances prédéterminées. La machine de cette personne était branchée sur chacune de ces personnes de la famille. Et cette machine lui disait d'aller ici et d'aller là, etc., etc. Et dans l'anatomie mentale de cette personne, le père était une espèce de machine qui lui disait vaguement que de toute façon, il n'y avait pas d'endroit où aller, alors pourquoi aller à tel ou tel endroit ? À quoi bon ? Et l'autre machine qui représentait sa mère dans son anatomie mentale disait « Tu dois aller à cet endroit. » Et sa sœur aînée était quelqu'un dans son anatomie mentale qui lui faisait des reproches, qui était méchante et qui, lorsqu'il faisait quelque chose, se montrait méprisante avec lui. « Ha ! Je suppose que tu te crois très malin maintenant, hein ?» Et il avait donc cette petite machine critique qui faisait « bip bip ». Et tout ce que j'ai fait, c'est détacher le gars de toutes ces machines en lui demandant de quelle façon les membres de sa famille lui administreraient du 8C. Et bien sûr, il s'est momentanément libéré de ces machines. Et il semble toujours en être libéré maintenant, à peu près après une semaine environ. Je n'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher, il était 7h du matin, il est parti, je lui ai dit qu'il ne fallait pas auditer quelqu'un trop tard. Comme c'est écrit dans le code de l'auditeur. Bien. Donc, nous avons un problème dans la deuxième dynamique. Quand une nation s'effondre, que le groupe devient de moins en moins capable de gouverner l'individu, la deuxième dynamique, la famille, devient de plus en plus l'unité qui dirige l'individu. Maintenant, expliquez-moi comment une nation peut oser reprocher à la famille de ne pas avoir mieux élevé son garçon ou sa fille. Qu'est-ce qui lui prend à ce magistrat de se pencher au-dessus de la barre et de dire à la personne assise là sur le banc des accusés, je n'ai jamais été assis sur l'un de ces bancs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un banc, toujours est-il qu'ils disent « Si vous aviez été une meilleure mère, votre garçon n'aurait pas assassiné ce type hier soir ». Il y a des magistrats qui font ça de temps en temps. C'est une habitude qu'ils ont. Ils représentent l'État. Mais si cet État était vraiment un groupe, si cet État avait vraiment de l'affinité, ou qu'il était vraiment capable de gouverner, les individus n'en seraient pas réduits au point où le seul gouvernement qu'ils connaissent, ce sont leurs pères et leurs mères. Donc, quand nous avons une troisième dynamique, qui se croise les bras et qui dit « nous ne sommes responsables de rien, nous n'avons aucune responsabilité. Tout incombe à la deuxième dynamique, absolument tout. Ça vous incombe à vous, là, les mères et les pères, c'est à vous de régler tous les problèmes. Et nous ne vous aiderons pas. Par contre, nous allons vous faire crouler sous les impôts. Eh bien, nous avons le tableau d'un gouvernement minable. Et donc, aujourd'hui, et c'est le cas en général durant les périodes d'agitation et de commotion, le plus grand gouvernement qui existe pour l'individu, c'est la deuxième dynamique. Intéressant, non ? L'individu est freiné ou guidé dans la vie par le gouvernement sous lequel il a été élevé. Nous n'arrêtons pas de lire dans les journaux à quel point la Russie est importante ou à quel point le discours hier soir au Sénat de tel ou tel aristocrate était important. Par contre, nous ne trouvons nulle part de mention comme quoi les familles vont maintenant recevoir des allocations familiales un peu meilleures parce qu'ils ont tant d'enfants à élever. Ça, nous ne le lisons pas. Nous ne lisons pas non plus que les parents sont invités à faire un stage dans tel ou tel centre pour apprendre à mieux élever leurs enfants. Je dis en passant, la Russie lance beaucoup d'invitations de ce genre. Les Russes disent que tous les pères et toutes les mères devraient venir faire un tour en Russie pour apprendre à élever leurs enfants. Je ne sais pas lire le russe, mais le russe semble très étrange comme langue de nos jours. Il n'y a plus cette politesse dans les ordres donnés, mais plus cette dignité énorme et lourde qui existait à l'époque du vieux tsar. Tout ça a disparu complètement de la scène militaire russe, je veux dire de la scène gouvernementale russe. Vous les gars, vous feriez mieux de faire un tour chez nous avant que nous vous liquidions tous. Quoi qu'il en soit, pères et mères sont censés se rendre là-bas, mais ce qu'ils sont censés apprendre, c'est comment enseigner le communisme aux enfants. C'est ça qu'ils sont censés apprendre. Ils sont censés apprendre la propagande gouvernementale.
Bon, ce serait une action intelligente si vous vouliez qu'une très grande troisième dynamique fonctionne. Nous n'avons pas de problème aux États-Unis pour ce qui est de faire fonctionner la troisième dynamique, la nation américaine, parce que nous sommes une nation qui est plus ou moins réunie par des lignes de communication communes qui visent des buts communs. Nous n'avons pas vraiment de difficulté à faire fonctionner la nation. Si nous avions un peu plus de difficulté à faire fonctionner la nation, peut-être que nous ne nous serions pas déchargés de toutes nos responsabilités sur la deuxième dynamique.
Très bien. Où trouvons-nous l'aberration ? Il me semble que dans une nation dont les activités nationales ne sont pas très passionnantes et où l'on ne s'intéresse pas énormément à l'individu, nous constatons que la deuxième dynamique et la première dynamique sont amenées à travailler ensemble et à entrer en conflit. Et que c'est vraiment ça la vie. Nous avons là la vie, le fait de vivre, dans cette première dynamique qui se heurte à la deuxième dynamique. Maintenant, quand un soldat revient de la guerre et qu'il a fait partie d'un groupe très uni dont les membres travaillaient ensemble, avec l'état d'esprit vaincre ou mourir, quand il a fait partie d'une troisième dynamique comme une compagnie ou un régiment militaire, peu importe combien cette troisième dynamique était médiocre, eh bien, il a en quelque sorte redressé sa troisième dynamique. Maintenant, il commence à agir dans trois dynamiques. Seulement, la nation qu'il a sauvée n'agit que dans deux dynamiques, ne fonctionne que sur deux dynamiques. Et lui, il fonctionne sur trois dynamiques. Ça lui paraît idiot. Il ne voit pas très bien ce qui cloche, mais il pense qu'on devrait un peu mieux organiser les choses. Il se met à penser à tout un tas de choses. Mais le plus important ici, c'est qu'il a goûté à la troisième dynamique. Je veux dire, vous pourriez prendre une nation et vraiment en faire une troisième dynamique solide. C'est absolument possible. Mais il vous faudrait donner aux gens un but qu'ils ont envie d'atteindre et non pas un service obligatoire à l'armée. il vous faudrait donner à la nation de très grands buts. Lui dire quels sont les buts par rapport aux autres peuples de la terre, et quelle est la signification de la nation, de cette nation, par rapport aux autres nations, aux autres peuples de la terre. Autrement dit, il faudrait une organisation très précise. Voyez ? Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, sixièmement, etc., etc. Et tu vas m'apprendre ces points par cœur, mon cher enfant, juste après ta leçon de géographie. Oui ? Et il nous faudrait vraiment coller à ce programme et vraiment le mettre en application. Ça nous donnerait un sacré tableau, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas ça que nous faisons à l'heure actuelle. Nous suivons plus ou moins le courant de la deuxième dynamique, et notre population se heurte aux premières et aux deuxièmes dynamiques. Et ces deux dynamiques, dans leur corrélation, créent la plupart des aventures que vivent les gens. Il y a les aventures de l'individu, du soi. Il descend la rue en courant, s'égratigne l'orteil, tombe, s'écorche les genoux. Voyez ? L'aventure. Il lève brusquement la tête, se cogne la tête contre le toit de la voiture. L'aventure. Il sort une chemise de l'armoire, c'est une belle chemise, elle vient d'être lavée, mais elle est encore pleine de taches d'encre. L'aventure. Peu importe si ces aventures sont insignifiantes, ce que je veux dire, c'est qu'il se passe quelque chose. Il découvre que son moteur est endommagé, et ça, c'est plus grave qu'avoir un souffle au cœur dans cette société. Mais c'est très bien, ça lui donne quelque chose à quoi penser, quelque chose à propos duquel se faire du souci, ça lui donne de l'imprévu. Il prend tout un tas de pilules et les met dans un verre d'eau, ça fait des bulles. Il boit le tout, c'est censé lui faire quelque chose. L'aventure. Il va voir le docteur, lui donne de l'argent et lui dit « Résolvez-moi ». Le docteur n'y arrive pas, et le gars va vraiment se créer quelque chose à résoudre maintenant, et puis il va voir un scientologue et lui dit « Je vous parie que vous pouvez pas me résoudre ». Il y a des gens qui se montrent superstitieux par rapport à la scientologie. « Je vous parie que vous pouvez pas me résoudre ». C'est une aventure. Mais dans la deuxième dynamique, nous avons beaucoup plus d'aventures. Des aventures d'une importance considérable, de nombreuses, nombreuses aventures. Si vous ne pensez pas que la deuxième dynamique est pleine d'aventures, eh bien auditez quelqu'un sur son premier mariage. Bien sûr, si je dis premier mariage, c'est parce que je vous parle de la civilisation américaine. Ici, on se marie plusieurs fois. Vous devriez auditer le gars sur son premier mariage. Vous savez, la mariée est censée être nerveuse. Et vous découvrez que depuis, le gars a été dans un état de choc durant toutes ces années. Ça les plonge dans la terreur de se marier. Ils sont passés devant le juge de paix. Celui-ci a apposé son tampon et il a dit « Très bien les enfants, vous voilà mariés, ça fera 10 sacs ». Que le mariage se soit déroulé d'une façon formelle ou non, il y a quand même cet état de choc. Eh bien, se lancer comme ça à l'aventure dans la deuxième dynamique, c'est plutôt aberrant, c'est une source d'aberration. C'est quelque chose d'extrêmement aberrant parce que le gars n'est pas habitué à avoir des aventures dans la deuxième dynamique. Quand il fait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, se demandant s'il est le père de jumeaux, de triplés ou d'un idiot, il est sous une tension énorme. Mais tout ça, ce sont des aventures. Quand il était très jeune, et qu'il est tombé sur cette fille qui habitait au bout de la rue, et qui était un peu un garçon manqué, et qu'il l'a emmené derrière la grange, eh bien, voilà une autre aventure. Et nous avons toutes sortes d'aventures liées à cette aventure-là. Le garçon rentre chez lui, dépose son cartable avec un air gêné, juste à l'entrée de la salle de séjour, de façon à pouvoir le prendre en passant si jamais il doit sortir en courant. Et papa est assis à la table. Il dit « Ah, comment ça va, fiston ? Je ne savais pas que c'était déjà les vacances de Pâques. » Et le fils dit « C'est pas les vacances de Pâques. J'ai été renvoyé de l'école. » C'est l'aventure. Il y a de l'action, beaucoup d'action, dans les premières et deuxièmes dynamiques. Donc nous ne parlons pas simplement de quelques sensations quand nous parlons de l'acte sexuel, de la procréation, du fait de subvenir aux besoins de la famille, de maintenir l'unité familiale. Nous parlons de beaucoup d'autres choses. De beaucoup plus de choses, donc, que Freud, quand il a prononcé ce vilain mot qui a choqué toute l'Europe victorienne. Libido. La théorie de la libido. Freud est arrivé avec nous ne savons quelles intentions, mais il a certainement créé un effet en 1894 quand il a dit « Chaque aberration dont vous êtes affligé est directement attribuable aux impulsions sexuelles bestiales et cachées que vous avez enfouies dans ce vilain petit inconscient qui est le vôtre. Et s'il n'y avait pas cet énorme censeur qui agit automatiquement, sans que vous le décidiez, heureusement pour vous d'ailleurs, s'il n'y avait pas ce censeur entre vous et cette horrible bête, eh bien que Dieu vous garde. Et si nous autres psychanalystes pouvions percer un trou suffisamment profond dans votre crâne, nous finirions par trouver une petite bête poilue que même vous auriez peur de contempler. » La théorie de la libido. Il a vraiment, un tantinet, choqué les gens. Mais ce qui les a surtout choqués, c'était que tout ça allait finalement être révélé. Ils n'avaient pas cru jusque-là que c'était important. Oui, après tout, durant ma nuit de noces, mon mari a été totalement persuadé que j'étais vierge, et il n'en a jamais douté depuis. Et vous voulez dire que pour aller mieux, je dois raconter... Oh non. La psychanalyse n'a jamais été populaire. Depuis 1894, depuis la publication de la théorie de la libido, la psychanalyse a décliné, non pas progressé. La théorie est toujours plus ou moins la même. La nouveauté qui est venue s'y ajouter, la chose la plus nouvelle qui s'y soit ajoutée, eh bien, ça a été l'autre jour en scientologie. C'est le fait que l'aberration est provoquée par des lignes de communication coupées. Quand vous cherchez une aberration, quand vous cherchez à guérir une aberration, cherchez la ligne de communication coupée. Et bien sûr, maintenant, nous comprenons donc ce qui se passe. Si on nous empêche absolument de parler de la deuxième dynamique, si premièrement nous ne pouvons pas parler de nos peccadilles sexuelles, et si deuxièmement nous ne pouvons pas parler de nos mésaventures sexuelles, ce n'est pas la même chose que les peccadilles. Si nous ne devons pas parler de Lucette à notre femme, ou si nous ne devons pas parler de Roger à notre mari, Roger qui, après tout, était un très brave type, si nous ne devons pas parler à papa et à maman des étranges impulsions qui s'emparent de nous, et s'il y a cette chose mystique, ce dieu, qu'on appelle le diable, vous savez, il n'y a presque personne qui conçoit le diable comme un dieu, pourtant c'est un dieu. Donc si vous avez ce Dieu qui attend là-bas, prêt à vous emporter en enfer à la moindre incartade dans la deuxième dynamique, bref, si nous avons tout ça, ça nous donne une sacrée accumulation de lignes de communication coupées, n'est-ce pas? Et vu qu'un individu est sain d'esprit dans la mesure où ses lignes de communication sont libres, suivies ou liées à d'autres lignes de communication, eh bien, des lignes de communication coupées ne vont pas vraiment lui faire du bien. Voyez. Maintenant, le nombre de communications coupées, et je ne parle même pas de tous les gros mots qui sont bannis, le nombre de communications coupées est extrêmement important au niveau du langage. Donc même le langage, les mots associés à la deuxième dynamique, sont refoulés, cachés. Mais voyons combien la communication peut être coupée au niveau de la deuxième dynamique. Il y a beaucoup de discussions entre mari et femme qui ne viennent jamais aux oreilles du voisin. Vous avez déjà pensé à ça? Simple, non? Le mari et la femme vont jouer au bridge, ils vont à une soirée pour jouer au bridge, ils s'ennuient à mourir et rentrent à la maison. Et le mari dit « Oh! T'as vu ce grand frimeur me parler de l'espadon qu'il a attrapé? Il ne serait même pas capable de faire la différence entre un espadon et une sardine. » Et la femme dit, Et tu as vu le chapeau de sa femme? Ridicule. Il lui a probablement coûté 75 dollars. Peut aller se faire voir, tiens. Voyez, voilà des lignes de communication coupées. Voilà deux personnes qui se sont dissociées de la troisième dynamique et qui communiquent entre elles, donc, avec une certaine quantité de lignes coupées. Elles disent des choses qu'elles ne veulent pas entendre répéter dehors. Et puis ce couple a des enfants, et les petits-enfants ont de grandes oreilles. Leur oui devient de plus en plus fine, et ils vont ouvrir la bouche de plus en plus. Et donc papa et maman vont à cette soirée et reviennent à la maison, et papa dit « Ce type, c'est un sale poivreau. » Et vous avez le petit Pierrot dans un coin, qui a les oreilles qui font flap-flap, et qui n'en perd pas une miette. Et puis il sort, avec les oreilles qui continuent de faire flap-flap, et il raconte ce qu'il a entendu à tout le monde. Et après, il y a comme un refroidissement dans les relations sociales de ses parents. Et ses parents disent au petit Pierrot, « Si jamais nous te reprenons à ouvrir tes grandes oreilles quand nous sommes en train de parler, nous te mettrons une telle fessée que tu ne pourras pas t'asseoir pendant 2 mois. » Le petit Pierrot est impressionné. Lui aussi a une ligne de communication coupée maintenant. Mais il ne sait pas très bien comment il est censé la couper. Alors habituellement, il va adopter la solution suivante. Il va simplement ne jamais mentionner ce qui se passe dans la famille. Comme ça, pas de danger. Il ne va jamais rien dire. Vous savez, papa rentre à la maison et offre un beau bracelet de diamants et un bouquet de fleurs à maman. Le petit Pierrot se dit « c'est chouette de la part de papa ». Mais il n'en parle pas à ses amis, ne serait-ce que vaguement. Il n'y aurait aucun inconvénient à ce qu'il en parle, mais il ne le fait pas. Autrement dit, ces lignes de communication sont très très coupées dans le périmètre familial. Ce n'est pas vraiment très grave, sauf qu'il ne fait pas la différence entre ce qu'il devrait dire et ce qu'il ne devrait pas dire. Vous voyez, il ne fait pas la différence. Parce que personne ne peut faire confiance en son aptitude à censurer, comme l'a sans cesse répété Herr Dr. Sigmund Freud, comme on ne peut pas avoir confiance en l'aptitude à censurer des gens, il faut une censure totale. Si vous ne pouvez pas avoir confiance dans le jugement de quelqu'un, qu'il ne sait pas ce qu'il doit dire ou ne pas dire, le mieux, si vraiment ça vous énerve, c'est de lui dire de la fermer une fois pour toutes, de ne jamais rien dire. Et la famille ne pense jamais à l'autre solution. Et cette autre solution serait que l'individu est un ton, le mot « ton » ici est un terme de jargon qui signifie simplement « condition » ou « état de l'individu ». Et cette autre solution serait que l'individu est un ton suffisamment élevé pour ne pas répéter ou faire des choses qu'il ne faut pas répéter ou faire. Seulement, l'homme ne pense jamais à cette solution parce que ses lignes de communication ne sont pas vraiment ouvertes. Elles ne sont pas vraiment grandes ouvertes. Donc, au niveau de la deuxième dynamique, les lignes de communication sont coupées. Et il n'y a pas que les gros mots qu'on interdit de dire. Les lignes de communication sont bien plus coupées que cela. Personne ne devrait employer tel ou tel mot. Quand on est en société, avec des gens polis, il y a certaines parties du corps et certaines actions qu'on ne mentionne pas et qu'on ne décrit pas. Bien sûr, quand nous sommes en compagnie de gens hyper polis, de gens de la haute société, de gens du 16e arrondissement par exemple, alors là, bien sûr, nous ne parlons que de ça. Mais sinon, en société, en compagnie de gens moyennement polis, nous n'en parlons pas. Le problème n'est pas simplement qu'il existe ce blocage au niveau de la communication, il y a plus que cela. Le problème est en fait que l'organisation de la famille elle-même, ses espérances, ses actions, etc., etc., sont en jeu. La famille se considère comme une petite forteresse qui doit garder le silence pour pouvoir réussir dans le monde, alors que la seule façon de réussir dans le monde, c'est de parler. Et nous voyons donc qu'un échec dans la deuxième dynamique et qu'un échec dans la première dynamique sont en fait un échec à communiquer. Quand le préclerc arrive, je vous rappelle qu'un préclerc, c'est quelqu'un qui reçoit de l'auditing scientologique. Quand le préclerc arrive et vous dit « Tu sais, j'ai des phobies horribles et la moitié du temps, je ne sais plus où j'en suis. » Pourquoi essayer de trouver la solution du problème dans la deuxième dynamique ? Vous êtes en présence de lignes de communication coupées. Des lignes de communication les plus coupées que vous ayez vues de votre vie. Ce gars vient de vous dire en fait qu'il n'est pas capable de communiquer avec une phobie tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Vous voyez ? Je n'arrive pas à communiquer. Quand il commence à se plaindre de quelque chose ou qu'il dit « je n'arrive pas à communiquer, cette chose m'ennuie », il est simplement en train de vous dire qu'il n'arrive pas à communiquer avec cette chose. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'individu peut le plus facilement du monde cesser de communiquer au niveau des premières et deuxièmes dynamiques. Et dans le cas de l'enfant, c'est normalement dans la deuxième dynamique que ces lignes de communication sont coupées. Mais il ne s'agit pas des lignes que Freud considérait comme étant coupées, ou comme devant être coupées. Il ne s'agit pas de quelques petites expériences désagréables du passé sur laquelle il suffisait de verser quelques larmes et paf, vous aviez un individu parfaitement sain d'esprit. Et soit dit en passant, Freud n'y est jamais arrivé, il a simplement dit qu'on pouvait y arriver, à rendre les gens sains d'esprit avec cette méthode. Il y a des gens qui ont dit que la psychanalyse a rendu des gens sains d'esprit avec cette méthode, eh bien ça n'a jamais été le cas, c'est pas vrai, parce qu'il n'aborde qu'un seul incident, n'aborde qu'une seule ligne qui a été coupée, alors qu'il faudrait aborder toutes les lignes qui ont été coupées dans toutes les dynamiques, toutes les lignes de l'individu à l'environnement qui ont été coupées, voyez. Et plus ces lignes sont coupées, plus la société est aberrée, et plus les gens se détachent les uns des autres. Un individu est sain d'esprit dans la mesure où il est capable de communiquer avec n'importe quoi. Est-ce que cela veut dire qu'un individu devrait dire des gros mots partout où il passe ? Non. Les gens qui emploient des mots grossiers quand ils parlent de la deuxième dynamique sont tellement inhibés par rapport au sexe qu'il leur faut en parler en employant ce genre de mots. C'est évident, non ? Ils sont aberrés du point de vue sexuel. Pour en revenir à la communication, aux lignes de communication, on a tendance à penser que la société est très très stricte sur le sujet, que la société n'aime pas vraiment tel ou tel genre de communication. Eh bien, permettez-moi de vous faire part d'un petit secret. Il n'y a que deux choses qui soient punissables dans cet univers. Deux choses. Il n'y a que deux crimes que cet univers punisse vraiment. Et tous les autres crimes sont basés sur l'un ou l'autre de ces deux crimes. Donc, nous pourrions dire que tous les crimes viennent se ranger sous ces deux crimes. Et le premier de ces crimes, c'est être là. C'est un crime. Vous êtes puni pour être là. En fait, ça a un effet tel sur l'enfant que pendant une simple réprimande, il pense que fondamentalement, tout ce qu'on lui dit, c'est qu'il ne devrait pas être là. Il croit qu'on lui dit « Tu ne devrais pas être là, nous ne voulons pas de toi, barre-toi, nous ne voulons pas de toi dans la famille, tu es exilé. » En fait, ce n'est pas ça qu'on lui dit. Ce qu'on lui dit, c'est « Pierrot, si jamais tu casses un autre pichet de lait, je ne sais pas ce que je vais faire avec toi. » C'était un pichet que ma mère m'avait laissé. C'est ça qu'on lui dit. Mais lui, il interprète ça autrement. Il pense qu'on lui dit « Nous ne voulons pas de toi. Va-t'en. Casse-toi. Décampe. Nous en avons assez de toi. Tu n'es pas assez bien de ta personne. Tu es là. Vous voyez ? Tu es là. Tu es là. C'est mal. Disparais. Va au diable. » Comprenez ? Eh bien donc, ça c'est le premier crime. Et il y a l'autre crime qui est même pire que le premier, c'est la communication. Être là et communiquer, c'est impardonnable. Mais communiquer, c'est carrément un crime. Prenons la loi. Nous avons cette chose appelée la loi. Il lui arrive encore d'être appliquée. L'autre jour, un juge dans une région assez retirée, je crois qu'il s'agissait du sud du Dakota, a réglé une affaire sans pot de vin, sans se laisser influencer, sans avoir été corrompu. il l'a réglée en se conformant aux lois de l'État et non pas en obéissant à quelques lubies personnelles. Je crois qu'il s'agissait d'une histoire de clé de voiture perdue, quelque chose comme ça. Le gars avait perdu ses clés de voiture, il avait attaqué quelqu'un en justice pour qu'il les lui rende. Et le juge, le gars les a finalement récupérées, le juge en a décidé ainsi, sans détour. Bien sûr, cet exemple isolé est loin de donner une image vraie de ce qui se passe. C'est loin de donner une image vraie de ce qui se passe vraiment dans la plupart des cas. Et voici ce que la loi dramatise. Si vous arrivez et que vous dites exactement ce que vous avez fait, j'ai abattu le cerisier, maman, avec ma hachette. Eh bien, la loi dit, il a communiqué, coupez-lui la tête. Donc, la seule façon, à peu près, pour un individu d'être en sécurité avec la loi, c'est de ne pas communiquer. S'il refuse simplement de communiquer, s'il ne dit jamais rien, il s'en sortira tôt ou tard. Vous en trouvez un exemple dans la Constitution des États-Unis. Un homme n'est pas obligé de témoigner contre lui-même. Donc, le crime, c'est de communiquer. C'est le seul crime qui existe. Et vous vous demandez parfois pourquoi des gens sont désagréables avec vous. Vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « Eh, comment vas-tu, Roger ?»« Bien, puisque tu ne vas pas très bien, je pourrais peut-être te raconter quelque chose. » Vous dites, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui ait mis cet individu dans tous ces états? Vous êtes allé trop loin. Vous avez parlé. Vous avez commis le crime. En fait, vous avez commis un double crime. Vous étiez là et vous avez communiqué. C'est impardonnable. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire dans cet univers. Bien, jetons un coup d'œil à cette deuxième dynamique. Tout un culte pourrait s'ériger qui serait fondé sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de relations sexuelles, que c'est la chose la plus sale, la plus vicieuse et la plus pourrie à laquelle puisse se livrer un individu. Vous savez pourquoi le sexe est un crime horrible ? Eh bien, je peux vous dire, sans le moindre effort, que c'est parce que l'individu communique avec un autre individu et qu'il en résulte une perpétuation de la ligne génétique. Ce qui permet à l'individu d'être là, dans le futur. N'est-ce pas horrible ? Donc nous avons sacrément intérêt à couper cette ligne. Nous avons intérêt à bien la couper. Un individu communique avec un autre individu, ce qui permettra à quelqu'un d'être là, quelque part, dans le futur, et ce quelqu'un communiquera. Et comme il est impossible de mettre la main sur ce quelqu'un et de l'étrangler, la meilleure chose à faire, c'est de couper complètement la ligne en disant que le sexe, c'est mal. Donc, si nous parvenons à couper suffisamment de lignes en ce qui concerne le sexe, si nous parvenons à réduire le sexe à néant, si nous parvenons à mettre les gens dans tous leurs états par rapport au sexe, à les faire sombrer dans l'inquiétude, si nous parvenons à persuader les jeunes qu'ils peuvent devenir fous en se livrant à l'acte sexuel, je dis en passant, cette affirmation n'est basée sur absolument aucune preuve, si nous parvenons à couper cette ligne de communication qui est la plus fondamentale de toutes, eh bien nous aurons détruit la race humaine. Et c'est là le but du physicien nucléaire. Pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Donc là où le sexe est désapprouvé, critiqué, vous trouvez généralement une impulsion à détruire, anéantir ou annihiler, non pas une impulsion à construire ou à progresser. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut immédiatement introduire l'amour libre, parce que, personnellement, j'aime bien savoir si mes enfants sont vraiment mes enfants. Ça fait une sacrée différence. Bon, vous me direz que j'ai plus de chance que la plupart des gens, vu que j'ai les cheveux roux. Donc, il est impossible de considérer la deuxième dynamique comme étant la seule source d'aberration qui existe. La seule chose qu'on peut considérer comme aberrante, c'est une ligne de communication coupée. Qu'on coupe cette ligne de communication dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième ou la huitième dynamique, ce sera tout aussi aberrant. Il se trouve simplement qu'en ce moment, les individus en sont arrivés au point où c'est uniquement dans les premières et deuxièmes dynamiques qu'ils vivent des aventures. C'est pourquoi nous trouvons la plupart des crimes perpétrés dans le monde dans les premières et deuxièmes dynamiques. Si les gens étaient actifs dans les autres dynamiques, nous trouverions aussi des crimes dans la cinquième ou la sixième dynamique. Vous comprenez ? Bien. Je ne pense pas qu'on devrait complètement supprimer la deuxième dynamique. Je ne préconise pas non plus qu'il faille abattre tout le monde ou exécuter toutes les femmes. Mais je crois qu'il faudrait refréner un peu les gens qui préconisent ce genre de choses. Le sexe est un sujet merveilleux, je pourrais vous en parler pendant des heures, ça m'est souvent arrivé. Eh bien, je vous remercie beaucoup, et bonsoir.